Le moyen du roman. La baronne de Rosul à Madame Gabrielle Duclos. Te rappelles-tu, ma petite Gaby, ce roman que nous avons lu ensemble au bain de mer la saison passée? Une scène nous frappa et nous fit longuement rêver et discuter. Il s'agissait d'une femme trompée par son mari qui, sitôt la nouvelle connue, court chez l'homme qui la courtise depuis longtemps et, crac, se livre à lui sans autre préparation. Nous convînmes que c'était là un merveilleux moyen de châtier l'infidélité d'un époux. Malheureusement, toutes les deux, bien que possédant des maris notoirement infidèles, nous n'en prenons aucun ombrage, plutôt satisfaites d'être délivrées pour jamais de leur assiduité. Nous déclarâmes donc que le moyen du roman était sans usage pour toi comme pour moi. « Eh bien, cher, nous nous trompions. Je viens de m'en servir. » Ou du moins de l'essayer. Et ne crois pas que ce fut parce que M. de Rosult s'est mis à entretenir Anna de Lormel après avoir entretenu la vieille Miss Simpson. Au contraire, ce changement m'a fait plutôt plaisir. Il a permis au baron de renouveler son répertoire de potins. Je connaissais tous ceux de Simpson. La petite de Lormel, plus dans le train, en sait d'inédit. Mais, depuis sa rentrée à Paris, mon mari s'est avisé de devenir avare et jaloux. Plus avare et plus jaloux, devrais-je dire. Scènes à tous les repas, ma petite Gaby. Pour le moindre flirt ou la moindre note de couturier, les grands gestes et les grands mots. Alors, hier matin, après le déjeuner, exaspéré par certaines insinuations du baron touchant mon amitié pour toi, j'ai quitté la table, je suis montée dans ma chambre, j'ai pleuré, j'ai eu une crise de nerfs, une vraie, pour moi toute seule. Puis j'ai pensé au moyen du roman. J'ai essuyé mes yeux, j'ai réfléchi 5 minutes, j'ai consulté le High Life et je suis sortie. Au tournant de l'avenue Ruizal, j'ai pris un fiacre en donnant au cocher cette adresse, 35 rue d'Anjou. C'est l'adresse de Roland Villeboisé. Pendant mes 5 minutes de réflexion, j'avais fait l'inventaire de mes adorateurs. Il y en a 4 particulièrement pressants. Le duc d'Udine, Roland, le capitaine Saint-Crest et Raoul Périllet, le romancier symboliste. Udine m'aurait plu assez parce que c'est le plus vieux et le mieux élevé. Il a des façons douces, douces. Il doit conquérir les femmes sans douleur comme un dentiste habile arraché de dents. Mais ce n'était pas possible. J'avais trop ri la veille de sa perruque avec Sophie Lafont. Elle devient violette, ma chère, cette perruque. Le fou rire m'aurait reprise au bon moment. J'ai renoncé à tenter l'épreuve. J'ai classé les 3 autres par ordre de mérite. Roland, le capitaine, Raoul Périllet. Ce serait bien de la guigne, pensais-je, si je n'en rencontre pas 1 sur 3. Ma première tentative fut d'ailleurs malheureuse. Roland n'était pas chez lui rue d'Anjou. Il était parti pour Nice la veille au soir. En voilà un qui me paiera ça quand il reviendra. Je consultai ma liste. Le capitaine Saint-Cret, 3 rue des Genettes. Rue des Genettes. Où trouver cela? Mon cocher était évasif. Peut-être bien, c'était du côté de l'observatoire, peut-être du côté du Trocadéro. Il avisa un gardien de la paix qui feuilleta son bouquin. Je mourais de froid. L'agent prononça « C'est à Grenelle, rue de l'Université et quai d'Orsay. » « Je savais bien, » fit mon cocher. Et se tournant vers moi, « Nous y allons. » Au train dont marchait le cheval, j'en avais bien pour 1 heure. J'étais désespéré. J'allais donner tout de même l'ordre de marcher quand sur ma liste j'avisais Raoul Périllet, 51 rue Castellane. Rue Castellane, ma chère, à 2 pas. Je sacrifiais sans hésiter l'ordre des prétendants et je donnais l'adresse du romancier. 3 minutes de trajet. Je n'eus pas le temps de faire de bien longues réflexions. Peut-être qu'il mettra l'aventure dans son prochain roman, pensais-je. Et puis après, une femme trompe son mari, ça n'est pas nouveau. Ça n'est nouveau que pour le mari. Et l'idée de M. de Rosul lisant la chose me fit passer un petit frisson de contentement dans les nerfs. Le romancier habite une maison triste, triste, où la concierge parle bas, où il faut corrompre le valet de chambre à prix d'or pour pénétrer dans l'appartement. Monsieur n'est pas là. Monsieur ne peut pas recevoir. Monsieur va me gronder sûrement. Monsieur travaille. Il avait pris mon argent et ne bougeait pas. Dites que c'est la baronne de Rosul, fis-je enfin exaspéré. On doit avoir le respect de l'aristocratie dans cette maison-là. Immédiatement, le valet de chambre disparut, puis reparut, très poli. Si madame la baronne veut bien me suivre. C'était vrai, le jeune maître travaillait. Il travaillait dans une petite pièce, tellement encombrée de bibelots qu'on s'y remuait à peine, et tellement sombre que je n'y distinguais rien d'abord. Ma main fut baisée cérémonieusement, et tout de suite, le jeune maître parla. « Comme vous êtes gracieuse, chère baronne, d'avoir pensé au pauvre cénobite que je suis. Non, je n'ai jamais tant regretté de n'avoir ni mémoire ni plume pour rappeler et pour retracer cette conversation avec Périer. Une conférence, Gaby. Il bavarda tout le temps. Il glissa sur le fait de ma visite qu'il affecta de trouver toute naturelle. Une visite de charité, voire le plus indigent de vos pauvres. » Et sans transition, il se mit à m'entretenir de lui-même, de son travail, des importuns qu'il assiège quand il demeure à Paris, des prochains voyages qu'exige le mauvais état de sa santé, etc. Il insista sur la longueur de telles absences et sur le mérite qu'ont les âmes vraiment sentimentales à reculer devant leur propre bonheur quand ce bonheur doit être trop bref pour satisfaire l'ami. Puis il cita Balzac, lequel avait, dit-il, des idées nettes et justes sur l'hygiène amoureuse des artistes. Il posa cet aphorisme. « Chaque baiser donné, c'est une nouvelle de moins. » Je l'écoutais distraitement. Moi, d'abord, avec les bavards, je ne pense pas parce que je ne puis pas parler. Lorsqu'enfin il s'arrêta, je me levai. Nouveau baisement de main. Je sors et me voilà devant mon fiacre. J'étais exaspéré. Je jetai au cocher l'adresse du capitaine Saint-Cray. Celui-ci, pensais-je, a une réputation tellement bien établie qu'elle ne peut mentir, pourvu qu'il soit chez lui. N'importe, s'il est sorti, je l'attendrai jusqu'à ce qu'il rentre. Le voyage fut long. Il était près de 5 heures quand nous arrivâmes. Ah, ma chère, quel quartier et quelle maison! Une sorte de phalanstère où demeurent une vingtaine d'officiers de l'école de guerre, des enfants grouillant dans les corridors, des ordonnances brossant des pantalons rouges sur les paliers. Bref, très mal logé, Saint-Crest. Mais, tu sais, on dit qu'il n'a que sa solde. Un soldat en tenue d'intérieur me mena au logement du capitaine. Il poussa l'obligeance jusqu'à sonner pour moi. D'abord, on ne répondit pas. Le soldat ressonna. J'entendis un bruit de pas, de portes ouvertes, et la voix de Saint-Cré cria « Qu'est-ce que c'est, nom de... » « Mon capitaine, fit le soldat, c'est une dame qui veut parler à mon capitaine. » « Une dame? Quelle dame ?»« La connais pas, mon capitaine. » « Attends, je vais ouvrir. » L'instant d'après, il ouvrait. Il n'avait pour tout vêtement qu'un pantalon et une chemise de nuit. Ses cheveux et sa moustache étaient ébouriffés comme au sortir du lit. Il parut très ému en me voyant, me prit les mains, m'amena dans une grande pièce claire qui devait être son salon. Il balbutiait « Vous ici, baronne, vous, c'est bien vous ?» J'étais énervée de tous ces atermoiements. Je déclarai carrément quel était le but de ma visite. « Vous dites depuis longtemps que vous m'adorez, eh bien me voilà chez vous. » À ce moment, un bruit léger se fit entendre dans la chambre voisine. Même la porte s'entr'ouvrit et j'aperçus une silhouette par l'entrebâillement. Saint-Cré m'avait attiré dans ses bras, il baisait mes yeux et mes lèvres avec une certaine fougue. Je pensais, voilà qui va bien, dans 5 minutes, le baron aura son affaire. Mais tout à coup, le capitaine me lâcha, passa la main sur ses yeux, murmura, je suis fou! « C'est impossible, impossible !» Il fit le tour de la chambre d'un pas agité, puis revenant et s'agenouillant devant moi. « Baronne, me dit-il, je suis un malheureux qui va perdre la plus grande chance de bonheur de sa vie. Mais je n'ai pas le droit de vous exposer ainsi. Il y a une femme chez moi en ce moment, dans la pièce voisine. Elle est nerveuse, jalouse. Si vous restez ici un instant de plus, elle va entrer, faire une scène pénible. Je l'entends déjà qui s'agite. » En effet, une main tourmentait le bouton de la porte. « Tu comprends que je ne demandais pas mon reste. Vois-tu d'ici la baronne de Rosul peignée par une cocotte militaire ?» Je me sauvai incontinent, suivi par Saint-Cray, qui me suppliait de lui accorder un autre rendez-vous. Pour me débarrasser de lui, j'ai promis de revenir le voir demain à la même heure. Tu devines comme j'irai. Et voilà, je suis rentré chez moi énervé, gelé, épuisé, pour me mettre au lit. À mon expédition d'hier, j'ai gagné la grippe sans réussir à me venger du baron. Quelle guigne ! Jamais je n'aurais cru qu'il fût si difficile à une femme point timide et point laide de se venger de son mari. »